Bonjour et bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécoises et des Québécois du monde entier. Ce 29e épisode a été enregistré en Matanie, comme les deux précédents, et avec un Québécois originaire de France, comme les deux précédents également. Mais vous allez l'entendre, son histoire est bien différente puisque chaque histoire est de toute façon singulière. Bonne écoute! Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Pierre.
Bonjour Alexia, bonjour. Bonjour à tous.
Ça va bien ?
Ça va bien, ça va bien. Samedi matin à Matane, il fait froid, il n'y a pas de neige. Ça, c'est un peu triste. Bon.
Et justement, les gens reconnaîtront ton accent et se demandent peut-être ce que tu fais à Matane.
Quel accent j'ai ?
Un accent.
Décris-le.
Bah, le même accent que moi, je pense. Un accent français pas vraiment régional. Un accent français. Et donc, sur ce, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, oui, oui. Pierre Chapdelaine de Montvallon, journaliste à Radio-Canada à Matane, citoyen français, citoyen canadien, québécois. Je suis né en France il y a 31 ans. J'ai grandi à Paris. J'ai vécu à Paris jusqu'à mes 18 ans. Et à 18 ans, j'ai décidé de quitter la France pour m'installer au Québec pour mes études. Et ça a été en fait beaucoup plus simple pour moi que pour beaucoup d'autres Français de s'installer au Québec parce que je suis né avec la citoyenneté canadienne. Mon grand-père vient de Montréal, Chapdelaine, Marc Chapdelaine, qui a marié une Française, Marie-Françoise Bursaise. Ma mère est aux États-Unis, mon oncle est né en Ontario. Donc je suis arrivé au Québec dans un endroit que je connaissais, où j'avais de la famille, des amis de la famille. Mais tu parlais de l'accent. Moi, c'est drôle parce que... Et puis je pense que je ne suis sûrement pas le premier à le dire. J'ai effectivement un accent français, mais quand je retourne en France, surtout depuis 5-6 ans, et que je parle à mes amis, que je parle à des gens que je rencontre là-bas, ils me disent « mais t'es québécois, toi, t'es un accent québécois ». Parce que je n'ai plus, en fait, exactement l'accent français. Je n'ai pas non plus l'accent québécois, mais j'ai un mélange des deux. Puis je pense que ça reflète bien un peu comment je me sens. T'sais, je suis pas juste français, je suis pas juste québécois, je suis un peu des deux, et je pense que c'est ça. C'est comme ça que je me définirais. J'ai le cul entre deux chaises, en fait.
Et au long de ta vie, comment tu l'as vécu ça ? Parce que j'imagine qu'en grandissant en France, avec certes la citoyenneté canadienne, mais ta mère est quand même en partie française, ton père est français.
Oui, oui.
Est-ce que tu te sentais déjà québécois ? Est-ce que tu as l'impression que la famille a essayé de te transmettre quelque chose de québécois ? Ou c'est quand tu es arrivé ici que les choses ont vraiment changé ?
Je dirais qu'avant mon installation au Québec, je n'avais rien de québécois, si ce n'est que j'allais passer mes vacances, enfin quelques vacances au Québec, notamment chez mon oncle à Ottawa. C'était plutôt une identité lointaine, dans le sens où c'était pas quelque chose qui me marquait, qui me constituait profondément. C'est plus en m'installant ici que je me la suis appropriée, cette identité. Ça a été pas mouvementé, mais un peu. Je suis allé de tous bords, tous côtés. Je vous explique. Très vite, en m'installant au Québec, j'ai voulu être plus catholique que le pape, puis être plus québécois que québécois. Avec beaucoup de sacres dans mon langage. J'en faisais beaucoup, j'en faisais trop. Et j'avais une forme de rejet de mon identité française. Pourquoi ? parce que j'étais jeune adulte. J'imagine que ça faisait partie un peu de la manière dont je me constituais en tant que personne. Ce n'est que dans les, je dirais, 5 dernières années que, depuis 5 ans, que j'ai vraiment fait la paix avec ça et que je suis fier d'être français, content d'être français, mais aussi fier d'être québécois et très content d'être québécois.
Et est-ce que tu as eu des étapes marquantes dont tu pourrais parler justement dans ce cheminement identitaire?
Il n'y a pas eu... À première vue, là, je n'arrive pas à trouver un moment où j'ai eu un déclic. Je dirais plus que c'est une espèce d'évolution sur le long. C'est sur des années. Où je parlerais presque d'un... Peut-être le mot ressentiment est peut-être trop fort pour ça, mais cette espèce de ressenti envers la France, c'est avec les années en fait atténué. Puis j'ai juste accepté, au lieu de me battre en fait contre cette partie française, moi je l'ai accepté. Et ça s'est pas fait genre d'un coup. C'est vraiment sur le long. Donc je dirais c'est un processus dynamique qui a pris du temps.
Et aujourd'hui, tu es journaliste, donc à Radio-Canada, tu le disais.
Oui.
Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir le cul entre deux chaises, pour te citer, ça te donne une perspective différente et ça te fait, dans ton travail, avoir des résultats différents de quelqu'un qui aurait un profil purement québécois ou plus purement français?
Bonne question. Je pense qu'il serait assez présomptif de m'avancer sur qu'est-ce que... Comment est-ce que mon travail en tant que avec cette double identité serait différent d'une personne qui assumerait juste une identité? Je ne pourrais pas avancer là-dessus. Mais qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est sûr, parce que ce que j'apprécie de plus en plus en fait, c'est que j'arrive avec deux bagages. Et en fait, c'est intéressant parce que ça me permet d'avoir des clés de compréhension dans les deux cultures. Parce qu'il ne faut pas oublier, puis ça, je pense qu'on peut le répéter, surtout à nos amis français, les cultures québécoises et françaises sont très différentes. Croire que le Québec, c'est juste nos cousins, donc d'Amérique du Nord, c'est un peu plus compliqué que ça. mais le fait d'avoir vécu ici durant un petit bout, de m'être vraiment inséré dans la culture, dans la société québécoise, et aussi d'avoir ce bagage français, ça permet vraiment d'avoir c'est les compréhensions, tu sais, par exemple sur les référents culturels, sur l'humour, sur l'actualité. Donc c'est sûr que je vais... Bon, c'est sûrement une vérité à la balise, là, mais je vais mieux comprendre l'actualité française. Et encore, parce que je la suis moins, je vais peut-être mieux comprendre comment fonctionne la société française qu'un Québécois. Mais ceci dit, j'ai l'impression aussi que... peut-être parce que je suis journaliste, je connais aussi très bien certains aspects de la société québécoise. C'est sur la politique, par exemple, beaucoup plus... que bien des Québécois qui sont nés ici, mais j'ai l'autre bord, par exemple, le revers de la médaille, c'est que par exemple sur la culture télévisuelle au Québec, qui est extrêmement importante dans la culture québécoise, surtout chez les gens qui ont notre âge, dans la fin vingtaine, trentaine, qui ont grandi avec la télé québécoise. Moi, je suis je l'ai pas écouté, donc je manque beaucoup de ces référents culturels là. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, tu vois, où je suis très outillé sur certains aspects de mon métier, mais sur d'autres beaucoup moins.
Et est-ce que quand tu étais justement plus jeune en France, à la maison, vous consommiez un peu de culture québécoise? Déjà, tu t'appelles Chapdelaine, donc vous lisiez Louis et Mon, j'imagine, non?
Je n'ai pas, lu Maria Chapdelaine, non, pas encore, qui a été écrit par un Français d'ailleurs. Louis et Mon est français. Est-ce qu'on consommait beaucoup de... Mais Ma mère goûtait Linda Lemay, qui me semble québécoise, oui. Mais c'est pas mal. Peut-être un peu de chansons québécoises, mais c'est plus chez mon oncle, en fait. Chez mon oncle qui vit à Ottawa. C'est lui qui m'a, un des premiers, jeté dans le bain, presque, de certains pans de la culture québécoise, notamment la chanson. Mais avant, tu sais, avant mon installation au Québec, c'était loin.
D'accord.
Ouais.
Je te posais la question parce que moi, j'ai quand même eu cette transmission assez jeune. Enfin, par exemple, j'avais une cassette de Passepartout quand j'étais petite. Enfin, une cassette audio parce que les cassettes vidéo, le système n'est pas compatible entre l'Amérique et l'Europe. Donc, j'ai pas pu écouter d'émissions pour enfants. Mais tu vois, je lisais Caillou.
Et donc, Caillou, je pense que ça, je l'ai regardé.
Ouais, mais je crois qu'en France, on l'avait un petit peu aussi. Ouais. Et adolescente, quand je venais en vacances ici, j'achetais des CD. Je me souviens que j'avais acheté le CD de Simple Plan. J'avais acheté celui des Cowboys fringants, là, le rouge avec le poisson. Donc j'ai certaines références culturelles qui ont fait vraiment partie de ma vie. Et les gens souvent sont étonnés parce que je vais avoir des références super pointues sur certains points. Par exemple, les Cowboys fringants, je connais vraiment toutes les chansons de l'album par cœur. Et à côté de ça, il y a des choses qui me sont complètement inconnues. Je pense que parfois, ça étonne un peu les gens de se dire « Mais comment ça se fait qu'elles connaissent autant certaines choses et d'autres qui ont l'air reliées, elle n'a jamais entendu parler de sa vie ?» Et puis même au niveau culinaire, enfin moi chez moi on mangeait quand même pas mal québécois. Ma mère faisait souvent du pâté chinois, du ragoût de pâte de cochon. D'ailleurs je me rappelle qu'une fois j'ai une de mes amies quand j'étais au lycée qui était venue manger à la maison et ma mère avait fait un ragoût de pâte et j'avais super honte parce que je me disais tout le monde au lycée va savoir que je mange des pieds de porc, les gens vont penser que je suis dégueu.
Mais c'est bon le pied de cochon.
Ouais mais tu sais quand t'es ado.
Ouais c'est sûr.
Et j'avais rien osé dire, mais dans ma tête, je me souviens que je m'étais dit, mais pourquoi elle peut pas cuisiner un truc normal? Alors qu'en fait, c'était pour partager sa culture, tu vois, avec mon ami qui avait beaucoup aimé d'ailleurs. Mais oui, moi, j'ai toujours été un peu entre les deux, c'est pour ça que je te posais la question. Et parfois, je pense que ça peut être difficile à suivre pour les gens autour qui comprennent pas pourquoi j'ai certaines références et pas d'autres.
Mais je pense que c'est parce que justement on a le cul entre deux chaises et qu'on prend une partie du corpus, tu sais, et on laisse l'autre. Puis je pense que ça serait la même chose si on retournait vivre en France maintenant.
Ah oui.
On aurait une partie de ce corpus là, mais j'ai l'impression que ça me rappelle en fait une fête où j'étais en France. En fait, c'était l'anniversaire d'un ami en France. Et j'ai constaté que le bagage musical entre ces Français-là, puis moi qui suis au Québec depuis un petit bout, ben, c'était plus le même, quoi. Ça avait
divergé.
Ouais.
Parce que j'ai l'impression qu'avec Internet, les choses communiquent aussi vachement plus que, justement, quand j'étais enfant, il fallait qu'on reçoive des colis pour avoir accès. Après, toi, tu vivais à Paris, donc c'était peut-être différent, mais moi, je vivais dans le Vaucluse et il n'y avait pas de librairie québécoise. L'accès à la culture québécoise était extrêmement restreint, à part quelques tournées de Linda Lemay, qui effectivement est venue quelques fois à Avignon, et mes parents sont allés la voir. Mais on était coupés, on n'avait pas les nouvelles, on n'avait rien. Alors que maintenant, ma mère lit la presse tous les jours sur sa tablette. Mmh. Et puis, avec Internet, c'est ça, t'as les nouvelles en simultané. Et tu sais au jour le jour ce qui se passe dans les deux endroits. Alors qu'à l'époque, il fallait attendre un coup de téléphone ou il fallait attendre d'avoir des nouvelles. Et j'ai l'impression que pour la culture française, moi, ça fait moins longtemps que toi que je suis ici, ça fait 6 ans. Mais j'ai moins l'impression d'être en décalage parce que j'ai l'impression que tout ce que les jeunes français de mon âge ont vu, je les ai vus sur Instagram aussi. Et finalement, que je rate pas grand-chose.
Oh bah alors, c'est peut-être une question individuelle. Alors c'est juste que je ne consomme pas musicalement ce que... Tu sais, par exemple, j'avais mis, il me semble... plein de, tu sais, genre de la funk américaine des années 70-80, Puis c'est bon, écoute, c'est peut-être un hasard là, mais c'était pas quelque chose qui les avait vraiment tu sais, j'ai l'impression que c'est que la musique nord-américaine que j'avais amenée, ben ça leur parlait pas trop, tu sais.
Ah ouais.
Mais c'est peut-être une impression, puis c'est peut-être juste puis ça relève peut-être juste de l'anecdote, hein. Voilà, donc peut-être qu'il faut pas tirer des grandes conclusions là-dessus là, mais je sais pas, moi pour moi c'était vraiment un signe d'une ou peut-être que je voulais voir ce signe d'un décalage entre ces gens d'à peu près mon âge qui sont restés, non, enfin, qui ont, non, c'est pas qu'ils sont restés, c'est qui ont vécu leur chemin en France, tu sais, puis moi qui ai pris un chemin un peu différent, puis je me rends compte que c'est ça qui a une, ben, c'est pas la distance, mais ouais comme une différence en fait, c'est ça, c'est qu'on n'est plus, on n'est plus sur le même chemin, on consomme plus la même chose, ouais.
Moi, c'est plutôt au niveau des codes sociaux que je le vois. J'ai l'impression que les choses sont moins automatiques quand je suis en France et qu'il faut que je réfléchisse davantage pour savoir quoi faire. Par exemple, j'ai tendance au resto à demander plusieurs factures et à chaque fois, on me regarde en me disant « t'as qu'à calculer toi-même ». T'es des choses comme ça où je vais pas me comporter exactement comme c'est attendu et je vois dans les yeux des gens qui comprennent pas vraiment parce qu'en plus,
c'est clair,
avec mon accent, ils se disent pas que je suis une touriste. Et c'est plutôt là que je vois le décalage. Et ça, je l'ai senti. C'est au bout de 3 ans à peu près, parce que la première fois que je suis rentrée en France, ça faisait 2 ans que je vivais au Québec. Et là, au contraire, j'ai ressenti un soulagement de ne plus avoir à réfléchir, parce qu'au Québec, au début, j'étais tout le temps en hyper-vigilance parce que je voulais, un peu comme toi, être plus royaliste que le roi, et je voulais absolument tout bien faire et faire absolument ce qu'on attendait de quelqu'un au quotidien. Et quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que c'était un soulagement de moins avoir à réfléchir et de faire les choses de manière plus par réflexe. Et là, c'est devenu l'inverse. C'est quand je suis au Québec que je fais les choses de manière plus naturelle, et c'est quand je retourne en France que là, il faut que je réfléchisse plus.
Il faut se reformater.
C'est ça.
Changer de disque dur, hein. Ouais, moi, j'ai la même impression que toi là-dessus. Et puis d'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle par rapport à ça. Bon, c'était il y a 7-8 ans, là, mais j'étais dans ma période à fond, tu sais, à fond québécois. Non, c'est pas être à fond québécois. J'étais dans ma période plus royaliste que le roi, comme tu disais. Où j'arrive en France, là, je tutoie tout le monde, je suis vraiment sympathique. Puis là, je vais à Strasbourg voir une amie, je m'installe, je sors du train, je m'installe au café de la gare, genre. Puis là, je tutoie la serveuse qui avait notre âge, on avait le même âge. Et alors, elle m'a fait des yeux, elle s'est sentie insultée, mais. En fait, moi, j'avais pas du tout réalisé que, bah, qu'en France, c'est ça. Dans ce genre de situation, il faut que tu vouvoies la personne, même si tu as le même âge, parce que c'est une marque de respect. Et puis la tutoyer, ça, en fait, c'est lui montrer, j'imagine, du dédain. Une forme d'arrogance, j'imagine, ou une forme de que je la méprisais. En tout cas, je sais pas, mais elle a vraiment eu une réaction qui m'a vraiment surpris, tu sais, là justement je n'avais pas reformaté mon disque dur, puis je m'étais comporté comme je me serais comporté à me rendre dans un café, quoi, tu sais, d'être avenant, sympathique et tutoyé, alors que ça se fait pas en France, tu fais pas ça. Point.
Oui, puis ce qu'il y a en France aussi, c'est que les normes sociales sont beaucoup plus rigides. Et donc au Québec, quand tu te comportes pas exactement comme on l'attend, les gens vont moins te le faire remarquer. Alors que je trouve qu'en France, dès que tu dénotes un petit peu, on va tout de suite plus te le faire sentir. Mais je suis assez surprise pour ton histoire de café, parce que à Paris, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire tutoyer spontanément par des serveurs qui avaient mon âge. Et j'ai l'impression que...
Alors, ça a peut-être changé, puis je suis
Elle voulait un peu s'offusquer pour rien.
Oui, oui, peut-être. Ça, les Français sont très bons aussi là-dessus.
Ouais. Mais le vouvoiement, moi, c'est quelque chose que j'ai eu vraiment du mal à lâcher ici. J'étais quand même très habituée à vouvoyer les gens. Même si dans les environnements de travail à Paris, on se tutoyait. Mais oui, j'avais quand même le vouvoiement qui était très ancré en moi. Et encore aujourd'hui, parfois, j'ai du mal à tutoyer spontanément certaines personnes. Et je sais qu'il y a des gens que ça fâche parce qu'ils ont l'impression que je mets une distance inutile entre eux et moi parce que souvent, c'est des personnes d'un certain âge que j'ose pas forcément tutoyer. Parce que je sais aussi qu'il y en a justement qui tiennent à ça. Mais il y en a qui me disent, ah, c'est pas parce que j'ai 70 ans qu'il me faut me vouvoyer. Donc, je sais jamais trop où me placer. Mais même... c'est vrai que même... tutoyer spontanément quelqu'un d'à peine plus âgé que moi, ça a été une adaptation pour moi.
Bah, il faut mettre les points sur les i, j'imagine, avec la personne. Puis après... Ouais, sur le vouvoiement, moi, dans ma job, au quotidien, je vais... effectivement, je vous vois encore, mettons, les intervenants... les intervenants que j'appelle et que je connais pas très bien. Et puis c'est rigolo parce que j'ai des collègues, au contraire, qui eux, là, je vois, c'est le tutoiement tout de suite. Non, c'est pas que c'est le tutoiement tout de suite, c'est que. C'est ça, c'est que moi, je vais mettre. Le vous va être. C'est pas qu'il est. C'est pas en fait qu'il y en a plus, c'est que je mets plus longtemps en fait à ne plus vous voir. Ça, c'est vrai. Ça, je le remarque avec mes collègues. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Franchement, on m'a jamais fait de remarques sur tutoie-moi, s'il te plaît. Là.
Ah ouais.
Mais, ouais.
Mais moi, par exemple, quand je vois des gens, j'entends des gens à l'école avec moi qui tutoient les profs, sans que le prof ait spécialement demandé à ce qu'on le tutoie, je me fais toujours la réflexion, je me dis, est-ce que c'est correct de faire ça? Parce que bah, moi, j'ai appris dès l'école primaire à vouvoyer les profs. Je me sens que dès le début du secondaire, donc à 11 ans, il y a certains profs qui nous vouvoyaient nous aussi. Ici, on ne verrait jamais ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'étonne toujours quand je vois des gens qui... tutoie comme ça les profs spontanément. Mais récemment, je me suis encore posé la question parce que justement, il y a un prof que j'ai eu l'an dernier et j'avais fini par réussir à le tutoyer. Et je lui ai envoyé un courriel récemment en le tutoyant et il m'a répondu en me vouvoyant. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai commis un impair? Et c'était... en fait, il s'est senti insulté que je le tutoie dans mon courriel. Donc je suis toujours un peu entre les deux à pas trop savoir. Souvent j'essaye d'adopter des formulations où j'ai ni à tutoyer ni à vouvoyer, mais sur le long terme ça demande quand même beaucoup d'efforts de ne jamais mettre tu ou vous dans une phrase.
J'ai fait la même chose que toi, moi aussi, quand j'étais aux études à la maîtrise avec un professeur, pareil, je sais pas trop si t'es tu ou vous, résultat les courriels j'en ai le plus possible la deuxième personne. Bon, ben oui, c'est ça. Ça fait partie de ces petites différences culturelles et puis un peu de cette se trouver dans une craque où on n'est pas, où on sait pas trop quelle est la bonne manière d'agir. Parce que c'est ça, on ne veut pas froisser l'autre, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que on va agir tel que notre éducation nous l'a enseigné, tel que... Ouais, c'est ça. Puis, on pense que cette manière-là est la bonne, mais la manière dont l'autre personne reçoit ça, ça ne va pas être forcément la bonne. Mmh. Puis je pense que c'est ça justement, genre, la différence culturelle.
Tu vois, oui.
C'est penser que c'est correct, alors que l'autre ne le reçoit pas forcément bien. Et ça prend du temps, je pense, à comprendre ces subtilités-là, puis à trouver et à faire en sorte, je veux, qu'il n'y ait pas de malaise que le message que tu envoies se rende, quoi, ouais. Et qu'il ne soit pas qui ne soit pas transformé par le canal de communication, que ce soit le tutoiement, le vouvoiement.
Et toi, comment tu envisages l'avenir? Est-ce que tu dois rester au Québec, à Matane, retourner en France un jour?
Je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Savoir un peu qu'est-ce que je veux. Est-ce que moi, je fais un métier déjà qui est c'est une industrie qui ne va pas bien, les médias. Financièrement, c'est compliqué. Le modèle d'affaires des médias n'est plus fonctionnel à cause notamment des géants américains du numérique. Donc, les perspectives d'emploi, surtout en ce moment, en mars 2024, sont difficiles. Donc, c'est difficile, si tu veux, de bouger en ce moment. J'ai l'impression, c'est peut-être juste mon impression, mais c'est ça. C'est qu'il y a tout, j'ai l'impression que c'est tout un peu figé dans le sens où les perspectives d'emploi sont assez réduites. Et puis pour le retour en France, je me pose la question aussi, mais ce que je réalise en fait, c'est que je ne connais pas la société française. Je ne connais plus plutôt la société française, puis je pense que je ne la connais plus assez pour pouvoir travailler dans les médias en France. Ou est-ce que c'est peut-être moi qui ne veux pas, qui n'ai pas le courage de me plonger, de prendre ce risque-là. Mais j'ai l'impression, c'est ça, qu'en tant que journaliste, je serais moins bon en France qu'ici au Québec, parce qu'au Québec, je ne veux pas, je connais quand même très bien la politique québécoise, pas mal bien la politique canadienne. Et puis par exemple, étant journaliste à Matane, moi je couvre beaucoup tout ce qui est pêche, foresterie. T'sais, je connais vraiment, en fait, pas mal bien ces domaines-là, en fait pas mal plus que le commun des mortels, puis le commun être journaliste aussi. J'ai une sorte d'avantage compétitif ici au Québec. Si j'entre en France, puis c'est un milieu fermé en France, j'ai l'impression. Je connais pas très bien, mais de ce que j'entends, c'est difficile. Alors déjà que c'est assez difficile au Québec, mais alors, voilà, donc c'est... Je dirais que et puis je pense que tu poses aussi les mêmes questions là, en tant que journaliste, c'est assez flou. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Et puis j'ai l'impression que c'est l'essence même de notre métier. En tout cas, dans les 15-20 dernières années, on parle juste de coupures. La taille des salles de nouvelles en Amérique du Nord, je pense que c'est peut-être le cas en Europe, mais ça, je ne pourrais pas avancer. Mais en tout cas, en Amérique du Nord, ça diminue. Les salles nouvelles diminuent. Il y a de moins en moins de monde qui sont employés. Donc, un message peut-être aux finissants en journalisme qui nous écoutent.
J'en fais partie.
Lâchez pas. Ça peut-être... Il y a de l'espoir, il y a des perspectives, mais c'est difficile. C'est difficile, puis il faut s'accrocher, je pense. Voilà.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, dont tu aurais aimé parler, notamment par rapport à ta construction identitaire et à la façon dont tu te perçois?
Je pense que j'ai assez parlé de moi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire.
Et voilà. Donc, ma dernière question, qui est une question que j'ai en fait du mal à définir encore. Elle va te paraître sûrement assez floue, mais n'hésite pas à me demander de préciser. C'est si tu devais nommer un objet culturel qui incarne toutes tes influences en tant que personne, qu'est-ce que tu nommerais? Sachant que je dis objet parce que j'ai pas d'autres mots, mais on m'a déjà répondu le soleil ou la couleur jaune.
Un objet culturel, je pense pas qu'il y en ait un, il y en a plusieurs. Puis je sais pas si je serais capable de donner des exemples précis, mais je suis un consommateur de plein d'objets culturels, que ce soit des films, des séries, des livres, des BD, des expos. bien qu'une fois, je vais reprendre un peu ce que je disais par rapport à mon identité qui est dynamique. Je pense que ça aussi, si tu veux, c'est dynamique, dans le sens où c'est tous ces objets culturels que je consomme font partie de moi. Que ce soit... je vais vous donner des exemples. Et peut-être aussi des recommandations. Tiens, pour ceux qui n'ont pas vu Xavier Dolan, regardez-le, c'est vraiment chouette.
Un film en particulier ?
Voilà, j'ai Mommy qui me passe par la tête, mais c'est un parmi d'autres. En fait, ses premiers surtout. Ce récent, moi je les aime moins, mais ça c'est une question de goût. En littérature, j'ai beaucoup aimé Michel Jean, les livres qu'il a fait sur sa mère, sur sa grand-mère. Les expos, aller aux expos à Montréal, à Ottawa, à Québec, sur les artistes québécois, c'est... Et puis en fait, aller à n'importe quelle institution culturelle au Québec, et je pense que c'est important de se nourrir de la production artistique passée et présente. Voilà, je m'arrête là, mais il n'y a pas un objet, il y en a plein, ouais, une multitude. Puis je pense que c'est ça qui fait que je suis tel que je suis, puis que tu es tel que tu es, c'est ne pas arrêter de consommer tout son objet culturel, quel qu'il soit. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Pierre.
Ça fait plaisir. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Il a été produit, comme d'habitude, avec CISM. Et si vous l'avez aimé, je vous invite à vous abonner à Québec au pluriel sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'à vous abonner au compte Instagram. Ça aidera beaucoup la visibilité du projet. Je vous retrouve la semaine prochaine à Rimouski, cette fois pour une entrevue avec une Québécoise aux horizons divers. À bientôt dans Québec au pluriel.